artistes. Olivia Ruiz, Renan Luce, De Palmas, M, Jeanne Chéral, Fefe, La Ruquetani. Retrouvez-les dans le programme de France Inter. Renseignements, franceinter.com. France Inter.
La différence.
15h04 sur Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Aujourd'hui, nous sommes tous européens et nous sommes tous grecs et nous sommes tous contre les mafias et autres banques qui exploitent et spéculent sur le compte des travailleurs. Aujourd'hui, je suis grec.
Oh là là, qu'est-ce que c'est beau tous ces efforts de la presse pour nous présenter Strauss-Kahn en futur sauveur de la France en 2012. Ah, ce matin, Libération et Le Parisien s'y mettent de concert. Hein. Et juste avant, on avait eu le Nouvel Observateur, Match, le JDD, l'Express et même Marianne. Bon, qui a totalement abdiqué son esprit critique depuis quelques mois. Tous à la recherche de l'homme providentiel, du grand sachem sachant, du messie rédempteur. Strauss-Kahn dirige le FMI, l'organisation la plus haïe par tous les pauvres de la planète, à qui elle a imposé des cures d'austérité mortelles. Mais aussi haïe des classes moyennes dans beaucoup de pays, parce qu'elles se sont retrouvées ruinées après le passage de ces experts. Ah, on nous dit qu'il a changé tout ça, Strauss-Kahn, hein, que c'est un FMI tout beau, tout neuf. Ah bon? Il vient de féliciter le gouvernement grec pour toutes les mesures de rigueur draconienne qui vont matraquer la population pour longtemps. Il y a 13 ans, en 1997, la presse mondiale nous avait présenté le travailliste Tony Blair, l'inventeur de la troisième voie, le sauveur suprême, l'éclaireur des temps futurs. Résultat des courses, l'Angleterre n'a jamais été aussi appauvrie depuis la guerre. Les inégalités ont explosé. Ah ben rassurez-vous quand même, hein, depuis qu'il a quitté le pouvoir, le socialiste Tony Blair a gagné 17 millions d'euros, payés par des grands groupes financiers qui l'utilisent pour ses conseils et ses conférences. Tout comme le social-démocrate allemand Schröder, qui après avoir imposé la rigueur brutale aux salariés de son pays, est devenu conseiller de grandes entreprises et même dirigeant du groupe russe Gazprom. Continuez de dormir, braves gens, on s'occupe de vous.
Alors c'est la nouvelle bonne idée du Pôle emploi pour faire disparaître les chômeurs. Bah, parce qu'il en faut des idées, il faut être créatif pour faire disparaître les chômeurs. Alors je vais vous parler de mon cas personnel. Moi je suis en congé maternité, donc je suis demandeuse d'emploi. Et comme je suis en congé maternité depuis peu, eh bien il se trouve que je ne suis plus à la recherche d'un emploi. Donc ça veut dire que j'étais radiée des listes du chômage et que quand mon congé maternité sera terminé, je devrais me réinscrire. Donc dans les faits, le résultat pour moi, ça veut dire que je perds tout le cumul. Parce que vous savez, pour avoir droit à des emplois aidés, pour avoir droit à tout un tas de conneries, de bouts de ficelle dans la précarité, eh bien il faut cumuler des mois d'inscription au Pôle emploi. Eh bien moi je repars à zéro. J'en conclus que les pauvres, il faut les cacher et que si en plus ils font des enfants, eh ben c'est bien fait pour leur gueule. Voilà, je vous embrasse, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ciao.
Bonjour à tous, je m'adresse particulièrement aux auditeurs modestes et géniaux du Pas-de-Calais pour leur rappeler que le repère de Monchy-Breton entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras réunit au café chez Tartous et compagnie ce jeudi à 18h30.
Bonjour Daniel, c'est Isabelle de Moselle. Je voulais raconter l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui est polyhandicapé suite à une maladie assez sévère du cerveau. Il est venu avec ses parents en clandestinement il y a 2 ans en France. Ses parents l'ont amené du Kosovo avec sa sœur pour le faire soigner, pour avoir un diagnostic. Il a été admis chez nous dans un institut d'éducation motrice pour enfants polyhandicapés lourds pour avoir les meilleurs soins. Les parents ont un numéro de sécurité sociale, le papa a décroché un CDI, la sœur était engagée dans un CAP. Et nous avons vu débarquer 30 gendarmes devant notre établissement pour venir chercher le jeune polyhandicapé pour qu'il puisse être expulsé avec ses parents et sa sœur. Et nous avons appris hier matin, donc à peine 12 heures après cet événement, qu'ils ont été effectivement mis dans un avion pour être renvoyés dans le Kosovo. Je dois dire que je suis dégoûtée, effrayée, que je trouve que c'est inacceptable. Pour faire du chiffre, on renvoie n'importe qui, n'importe où. Ce jeune homme ne pourra pas être soigné aussi bien que chez nous. et sa famille était totalement prête à s'intégrer, avait appris le français. Voilà. Merci, bonne journée.
Bonjour à tous, le prochain repère de Limoges, c'est ce soir mercredi, à partir de 18h30, au bar Le Gousset, 41 rue des Combes. Alors à ce soir, salut.
Bonjour, c'est Julien. Ben, écoutez, je viens d'entendre l'émission Les petits soldats de l'humanitaire et je suis abasourdi par ce qui était décrit dans le reportage. Je crois que quand on sait que l'école des 3A est une école payante, que le président de cette école est donc dans un lien de parenté avec le patron de Galis, la société d'aguerrissement, que les stages sont facturés donc de 1000 à 10 000 euros. La boucle est bouclée, les étudiants non seulement se roulent dans la boue, mais se font rouler dans la farine pour financer l'entreprise familiale. Au revoir.
Bonsoir à toute l'équipe de La Base Si J'y Suis. Je suis Gilles Sacaz, le cofondateur et le président de la société Galis. Désolé, la communication est mauvaise. En fait, je vous appelle de Madagascar, d'où j'ai quand même pu écouter votre émission. Vous voyez qu'on n'est pas très éloigné du sujet. Alors tout d'abord, félicitations pour la rigueur intellectuelle de votre émission, dont finalement le contenu est assez éloigné des clichés et des certitudes. Je souhaitais faire un petit rectificatif. Jacques Gallois, en fait, est président de l'école 3A et pas de la société Galis. Mais ce n'est pas l'essentiel. Mon appel porte sur une petite précision que je souhaitais faire en réaction aux commentaires de Ronnie Broman. La formation que nous délivrons à nos stagiaires concernant l'armement n'a pas pour objectif d'en faire des utilisateurs. Cette formation en termes d'objectifs est très très éloignée des formations militaires. Les ONGTistes, comme des journalistes ou certains expatriés, sont amenés à opérer dans des zones polluées par les armes, par les mines ou par les munitions non explosées. Cette pollution génère des risques, si vous voulez, c'est ça qu'on vise en fait, c'est la maîtrise de ces risques. Cette pollution génère des risques et nous, en fait, nous cherchons à donner à nos stagiaires des outils de maîtrise de ces risques. Concernant l'armement, puisque c'est un peu ce qui m'a fait réagir, nous avons deux objectifs. Un, c'est démystifier l'outil et faire tomber une appréhension qui peut parfois être facteur aggravant du risque. Et deux, c'est donner quelques notions de base permettant à nos stagiaires de neutraliser ou de mettre en sécurité une arme pour lever pour leur propre sécurité, mais aussi pour la sécurité de leur entourage. Voilà, c'était des petites précisions. Bonne continuation à tous et je suis impatient d'écouter la suite. Au revoir.
Ah, merci François Ruffin. L'avenir est enfin radieux grâce à vous. Je ne savais pas quoi faire de mon fils et je crois que j'ai trouvé. C'est vrai que je vais l'inscrire dans cette école. Là, je sens que l'avenir ça s'ouvre devant nous. Je ne savais pas s'il devait faire médecin, avocat, mais là, commerce international, aller dans des pays africains, manger de la banane plantain et puis être à la tête d'une grande entreprise, c'est fabuleux. Bon, il a que 14 mois pour l'instant, mais je pense bien l'entraîner au cri de guerre. Je pense que ça peut peut-être l'aider à rentrer plus facilement dans cette école. C'est fabuleux, merci beaucoup.
Regarde.
Et voilà, vous avez compris où nous en sommes. Aujourd'hui, deuxième volet des petits soldats de l'humanitaire, ces étudiants d'une école lyonnaise, l'école 3A, qui viennent suivre un stage organisé par cette société qui forme et qui aguerrit les étudiants, mais pas seulement, tous ceux qui sont amenés à arpenter le monde et ses dangers. Vous savez que, on l'a dit et redit hier, le monde est un endroit horrible, plein de risques, plein de gens bizarres, louches, patibulaires, mais presque. Et il faut s'en méfier. On n'est pas des bisounours. Une auditrice nous a dit, on n'est pas des bisounours. Et vous avez entendu le président, cofondateur de cette société, donc qui s'appelle Galis, G-A-2-L-I-C-E, très content de la première partie de ce reportage, et qui a fait des réserves quant à l'usage qui est fait, ou la formation qui est faite aux armes. Comme on l'a entendu hier, on pourrait croire qu'il s'agit d'un entraînement véritable. Et on a des auditeurs. qui nous ont fait observer des militaires ou militaires retraités qui nous ont dit qu'il faut faire très attention à ne pas initier ces gens si sommairement à l'usage des armes parce que ça mettrait leur vie en danger dans des situations qui peuvent être difficiles. Voilà, donc ça correspond à peu près sur ces deux points-là, mais il y a bien d'autres choses que nous allons apprendre d'ici à 16h grâce à ce reportage de François Ruffin qui a appris notamment beaucoup de choses sur les poulets. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Merci pour ton émission d'hier sur la vie, ça fait du bien. J'ai été conseiller à la vie. Moi, je me suis barré de la vie un jour où je discutais avec mon responsable sur les impayés et je lui parlais d'un gars qui n'arrivait pas à payer son prêt, qui était au RMI et qui avait le cancer. Et quand je l'avais appelé, il était sur son lit d'hôpital et il m'a répondu ma mère aussi a eu le cancer, ça ne l'a pas empêché de rembourser ses prêts. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne sais pas ce que j'ai à faire à la vie, et je me suis barré. Depuis, j'ai des nouvelles avec des anciens collègues, ça s'est vraiment pas amélioré. Et puis ça fait du bien que tu en parles, alors continuez toute l'équipe, la lutte continue. Salut.
Salut Mermet, salut les AMG. Ce soir, mercredi 5, au Dercim de Mété, repère de Annecy. Thème du repère, totalement original, les retraites. Début des hostilités à 19h, autour d'un verre, possibilité de partager un kebab à la fin des débats. C'est au Dercim de Mété, ce soir 19h, qu'on se le dise et répète.
Hello, c'est Tof du repère de Metz. Chez nous, le café repère, c'est le 6 chaque mois à 6h du soir. Ce jeudi, le thème du débat sera consacré aux multinationales, à l'assaut du bio et du commerce équitable. On t'attend, ami Lorrain, jeudi 6 mai à 18h, au bar La Renaissance à Metz, près de la place des Charons.
Bonjour, c'est Michel de la Maison Citoyenne de Joigny. Voilà, c'était pour vous prévenir tous que la marche Paris-Nice pour la régularisation des sans-papiers est arrivée dans Lyon. Donc ils sont arrivés dans Lyon à 106 hier soir. Ils en partent ce matin pour arriver à Joigny ce soir. Un collectif de soutien de 26 organisations s'est constitué pour les soutenir. Rendez-vous à tous ce soir à Joigny pour un barbecue géant sous le marché couvert. Et ensuite, samedi 8, pour une grande journée sur les sans-papiers qui se déroulera à Joigny à la Halograin. Merci de venir tous les soutenir. Je crois qu'ils ont très froid en ce moment parce qu'il fait un temps du mois de novembre dans Lyon. Donc apportez aussi des pulls et des caouets parce que c'est un petit peu galère de marcher sous la flotte. Voilà.
En garde ! Debout ! Roulez en avant !
Vous êtes au Sri Lanka. Il y a plein d'enfants soldats. Les enfants soldats là-bas, ils s'en battent pas. Il y a un problème avec la Kalachnikov, ils la jettent, ils vont en voler une à côté.
Et comment ça se fait que manager à l'international, on se retrouve en tenue vert kaki?
Eh bien justement, si on est confronté à ce genre de situation en fait.
En garde! Roulez en avant! Debout! Roulez en avant! Debout! En garde!
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis, avec François Ruffin, les petits soldats de l'humanitaire.
Flight number 2, arriving from New York.
Buvez pas trop, hein, une petite gorgée, vous allez voir, vous allez être lourd après. Allez, allez, allez.
L'idée, c'est de les préparer. L'idée, c'est de les préparer, et puis déjà, les préparer à un peu de souffrance. À se sortir de leur... à se sortir les tripes un petit peu, quoi. Savoir ce que c'est que quand ça brûle un peu. Un public qu'il faut préserver un petit peu. Et... qu'on a un interlocuteur qui est un type qui est préparé mentalement, qui est préparé physiquement, et qui sait ce que c'est que la souffrance physique.
Qui s'est déjà pris des coups dans la vie et des coups dans la gueule, quoi.
Exactement. Là, ce sont des étudiants qui sont en devenir, qui vont... Donc... Il faut y aller crescendo également.
Allez! En garde! Cache au sol! Voilà, c'est mieux ça! En garde! Allez! 5 secondes! 1,
Mais là, il y a un contraste entre, on voit bien, petite bourgeoisie blanche, bien éduquée, polie, souriante, et qu'on cherche à former là à soyez méchant. Enfin, vous voyez un peu, il y a un choc entre le formateur, il s'appelle Thierry, c'est ça ?
Thierry, oui.
Thierry, GIGN, crâne rasé, sans doute d'extraction populaire. Enfin, j'imagine, quoi. Et puis, en face, les étudiants qu'on veut aguerrir, alors qu'ils sont tous le sourire aux lèvres.
C'est vrai. C'est vrai que c'est...
De la jungle, dans les ruines encore fumantes, dans les ténèbres humides, dans les ruelles borgnes, il vous observe. Salariés, expatriés ou en déplacement, membres d'organisations non gouvernementales, voyageurs d'affaires, ou apprenti journaliste. Ce stage est pour vous. Aguerrissement mental. Voilà ce qui est nécessaire à votre formation pour devenir un vrai baroudeur. Mais pas seulement un vrai baroudeur. Quelqu'un qui, au cas où, en cas de kidnapping, d'agression, d'attentat, d'émeute, de pillage, de criminalité élevée ou même de grève, saura faire le nécessaire. Le monde est un endroit horrible, mais l'Irak est un Eldorado financier. Seulement, voilà, il faut y aller, et pour y aller, eh ben, il faut se préparer. Et c'est ce que nous allons faire, pas seulement pour partir en Irak, Eldorado financier, mais n'importe où dans ce monde épouvantable et menaçant. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, les petits soldats de l'humanitaire.
En fin de compte, une ONG, c'est une entreprise comme une autre, hein, maintenant. Donc ces jeunes, vous les retrouvez dans les grandes entreprises, les petites entreprises, dans les ONG aussi, qui sont des entreprises.
Pour faire une bonne guerre, les ingrédients sont là, tu vends bombes et pansements. Les dégâts, les outils, c'est pompant. Du plouc et tralalère, des bons et des méchants. Des balles chirurgicales, faut choisir le pays en fonction de ce qu'il a, pétrole ou énergie. Diamant plein d'éclats, une petite guerre civile et dans préliminaire, une place sur l'échiquier pour de futures affaires. Futures affaires, ouais. D'islam ou de terreur, le régime ne plaît pas. Un chef qui ne bouge pas, qu'on peut montrer du doigt pour faire chuter l'oignon. Assurez papa, virtuel ou réel, un feuilleton cinéma, on s'ouvre un bébé rose sur un charnier de mer, en avant le départ, en l'arrosant de pierre, ouais. Pour mettre des pommes de terre, des carottes, de la farine, du salsifis. Pour ranger les jouets et signer des contrats, des prêts, des plans de l'or, des béquilles, du cola, 1000 ans pour rembourser à des jolies caissières.
Mais prenons l'Irak, par exemple. L'Irak, c'est un Eldorado financier. L'Irak va être à reconstruire. Donc l'idée, c'est de préparer des jeunes qui seront capables demain d'aller vendre la France en Irak, qui est quand même pas une zone facile.
Ma patrie est une pute qui ne change pas ses draps, qui loge en son plumard affairistes et soldats, qui paye de ses amènes les kermesses des compères de l'Eurocapital. Yankee ! Et en est fier. L'Europe des vieux bourreaux lèche ses bottes d'apparat. Elle justifie mon or en mort de bon aloi. Si je paye en euros mon club génocidaire, qu'il assume son business dans une pleine lumière. L'image n'est pas le vrai, le choc n'est pas débat. La viande à vendre éclate en fontaine de nougat. Les communicateurs emballent tous les enfers et transforment en champagne la pire des pissotières. J'attrape la langue de bois, excusez-moi du peu, mais il faut qu'elle s'y gère, le trafic est mouvant. Des guerres humanitaires, l'image n'est pas le vrai. Le choc n'est pas débat, la viande à vendre éclate. En fontaine de nougat, les communicateurs emballent tous les enfers et transforment en champagne la pire
Il y a une crampe. Il y a une crampe.
Ouais, il y a un problème de veine et de...
De circulation.
Oui. Peut-être pas, pas le droit de courir.
Eh ben, faut pas courir.
Je n'ai pas le droit de courir, ni de faire du sport, ni tout impact sur mon pied.
Donc on va peut-être éviter qu'elle fasse des rondades.
Ça fait du bien quand le sang redescend.
Bah, bien sûr.
Et qu'est-ce que tu veux faire après, toi? Tu as déjà des objectifs?
Gestion de crise.
Dans le développement ou dans le...
Non, gestion de crise.
Gestion de crise, ah oui, d'accord.
C'est là-dedans que je fais mon stage.
C'est quoi, c'est-à-dire gestion de crise? Médiatique, gestion de crise, quoi.
Non, moi, dans mon entreprise, c'est le plan de continuité d'activité. Bah, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à l'entreprise de continuer à marcher, du point de vue humain, matériel, etc. Tout prévoir d'un point de vue procédure, process, s'il y a quoi que ce soit.
Mais quoi, par exemple, une explosion
Une explosion, mais ça peut être aussi une grève, une coupure de courant, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui peut perturber son activité normale et qui pourrait l'empêcher de travailler, en fait.
Et donc, ça veut dire que vous mettez en place des procédures en essayant d'imaginer tout ce qui peut se passer.
Exactement,
qu'est-ce qu'on fait dans chaque cas?
Des scénarios. Des scénarios de crise à tester.
Et alors, pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais aller faire du kung-fu en Picardie?
En Picardie, là?
Ouais, on est en Picardie, là.
Non, parce que c'est une opportunité à saisir. À mon avis, ça se présentera qu'une seule fois dans ma vie de faire un stage de ce genre avec des vrais professionnels qui peuvent m'expliquer comment réagir en situation de crise. Et...
Si jamais il y a une séquestration dans l'entreprise.
Mais pourquoi pas? Parce que la grève, de toute façon, et la séquestration des dirigeants...
Pardon?
La grève, tout ce qui est grève du personnel et la séquestration des dirigeants fait partie des scénarios qu'on peut tester. Si on a une grève qui nous empêche d'accéder à l'entreprise, comment on fait pour la faire marcher de l'extérieur et pas causer des problèmes à nos clients, par exemple?
Comment on fait pour mettre en route une deuxième usine qui n'est pas...
Par exemple, qu'est-ce qu'on prévoit comme lieu de repli pour tous les services? Comment est-ce qu'on passe sur un autre standard? Il y a tout à prévoir, en fait.
D'accord. C'est sympa comme boulot, alors?
Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Puis ça change tout le temps, quoi.
Bon, le maniement de la Kalachnikov au siège...
On ne sait jamais. On ne sait jamais.
C'est si vraiment la grève tourne très mal, quoi.
Voilà. Ça peut être utile. Non, mais parce que pour l'instant, c'est en France, mais ça peut être à l'international, et là, ça peut être utile.
Et pour l'instant, on est à côté de Compiègne, dans la forêt de Compiègne, à Marc-Église, avec cette société, donc Galice, qui entraîne ces jeunes, ces étudiants, vous voyez, des petits soldats, mais des petites soldates aussi, tout à fait dévouées, qui ont compris que the business must go on, quoi qu'il en soit, même si, voilà, il y a des grèves, des enlèvements, des séquestrations de patrons. Il faut savoir faire le nécessaire et se préparer à toute éventualité en cas de guerre sociale. Guerre sociale, j'ai pas dit lutte de classe, j'ai dit guerre sociale. Suite.
Regarde. Ah ! Debout.
Les organes génitaux, on est d'accord. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous avez de très douloureux ? C'est la crête tibiale. La crête tibiale. Ça fait excessivement mal. Hein ? La même chose, hein, un pouce dans l'œil, là. Un pouce dans l'œil. Si un jour, ben, je vous ferai voir quelques petits trucs, il faut vous en sortir, vous n'avez pas le choix. Si vous mettez un pouce dans l'œil et que vous lui pressez l'orbite à l'intérieur, vous le mettez dans le coma instantanément. Et c'est vite fait. C'est de la gélatine de l'œil. Il y a le nerf optique qui est derrière. Et là, avec le pouce, on a quand même pas mal de force. Et vous venez presser fort. Vous avez l'orbite qui rentre et vous le mettez immédiatement. Le corps est bien fait pour ça. Hein. Le corps, dès qu'il a mal, boum, il se met dans un état de coma. C'est pour se préserver. Pendant le temps où vous l'avez mis dans le coma, vous pouvez vous sauver. Et croyez-moi, c'est très très vite arrivé. Hein. Ok, pour les. Ce qu'il faut chercher à frapper quand on est en situation de danger, c'est des zones où ça fait mal. Donc je vous ai expliqué. Si c'est vraiment, il y a vraiment le feu, vous tapez dans le rouge. Hein. Ça va, pas de bobo?
J'avais un colonel. C'est un colonel qui nous faisait l'entraînement dans mon club de foot, l'association sportive du foyer rural de Rimont-sur-Ancq, section football, équipe B. Et c'était tout le temps couché, debout, couché, couché, debout, couché, couché, on rampe.
Ouais, mais on travaille la vivacité avec ça. Hein. T'as vu comment ils mettent du temps pour se relever?
Bon, ça fait un peu étudiants qui viennent s'encanailler pendant 3 jours.
Mais tu vas voir, rien que la deuxième séance, là, ça va leur faire mal. Là, là demain, il y aura tous les petits muscles qui vont se réveiller. Et là, qui vont se dire... Ah, j'ai mal de partout, j'ai des courbatures et ils vont repartir sur des trucs. Donc là, ça va être dur. Et la troisième derrière, là, ça va être l'horreur carrément.
Mais ça te fait marrer quand même.
Oh, mais quand je vois des jeunes comme ça, pour nous, c'est sûr que les jeunes, déjà, un,
Ça a été bien dit ce matin, ils font plus de service militaire. Donc c'est quand même un handicap pour eux. Parce que le service militaire, c'était quand même une bonne chose, quoi. On sortait de chez papa, maman, surtout de chez maman. Et puis on se retrouvait dans un milieu qui était un peu hostile, où il y avait un sergent ou un caporal qui gueulait, et où tout d'un coup, c'était recadré en termes de discipline.
T'es rentré dans le GIGN il y a combien de temps?
En 88.
88?
Moi, je suis rentré à l'époque d'Ouvéa.
Ouais.
Donc la crise en Nouvelle-Calédonie, sur l'île d'Ouvéa.
Où il y avait eu une prise d'otage,
voilà,
des mecs qui avaient été abattus.
Des canaques qui avaient... une vingtaine de canaques avaient emmené 22 gendarmes. Ils en ont tué 3 au départ, 3 gendarmes. Donc on est allé là-bas pour... Et puis effectivement, à la fin, ça s'est conclu par un assaut, parce que les négociations n'aboutissaient à rien. Et où il y a eu beaucoup de victimes dans les rangs de l'adversaire. Voilà. C'était entre deux élections présidentielles, donc ça s'est joué au niveau politique. C'était un peu... C'était une belle opération, quand même. Il faut savoir qu'en face de nous, on avait quand même une vingtaine de canards qui étaient déterminés, qui étaient puissamment armés, et qui venaient de tuer 3 gendarmes, quoi. Voilà, c'est ce qu'on oublie de dire à chaque fois. Et on a essayé de négocier, obtenir des redditions, et ils ne voulaient rien savoir. Et ça s'est conclu par un assaut qui a été... où ils ont eu beaucoup de pertes, effectivement. Et nous aussi, on a eu un mort dans nos rangs, pas au GIGN, mais dans les forces spéciales. Et on a eu un blessé grave. On a eu 2 blessés par balle au GIGN, un dans la tête et un dans l'épaule.
La question qui s'est posée, si je me souviens bien à ce moment-là, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont été abattus une fois qu'ils n'étaient plus en état de se bagarrer?
Non, non.
Si je pose cette question-là, c'est en me disant, est-ce qu'il y a 20 ans, on aurait vu des étudiants être volontaires pour aller passer 3 jours avec des forces du GIGN, des gens issus du service secret, de l'armée. La notion de sécurité, qui auparavant n'était pas dominante, qui s'est mise à être dans l'espace public, quelque chose qui devient de manière vachement fréquente. Il y a eu plein d'émissions, Le Droit de Savoir, qui a fait plein de trucs sur le GIGN, les forces de police. Bon, il y a eu une... c'est comme si on avait rendu populaire des forces qui ne l'étaient pas peut-être au milieu des années 80. Et je me dis, est-ce qu'au début des années 80, les jeunes de cette époque-là, ils auraient été volontaires pour passer 3 jours avec des gens des GIGN et des services secrets?
Non, ça se faisait moins à l'époque. Aujourd'hui, il y a un réel besoin. La France est un peu partout. Et ces gens-là, bon, on doit leur donner un minimum de savoir.
Voilà. Un minimum de savoir. L'affaire de la grotte d'Ouvéa, 25 morts quand même, et les assassins n'ont jamais été jugés. Une affaire sur laquelle il faudrait revenir, qu'on évoque là rapidement, c'est pas tout à fait le sujet, mais enfin voilà, puisqu'on l'évoque. Alors, on continue avec cette formation que reçoivent ces jeunes de cette école lyonnaise, l'école 3A, dont Jacques Gallois est le président.
On voit souvent, quand les humanitaires sont pris en otage, c'est parce qu'ils peuvent être soupçonnés par des groupes armés d'être en fait des membres des services secrets français, par exemple. Ça se passe assez régulièrement au Niger, c'était le cas. Il y a un soupçon qui pèse sur l'humanitaire d'être finalement un moyen de filer des informations aux services secrets. Est-ce que le fait, là, on est à côté de Compiègne, en Picardie, mais de rapprocher dès l'école les étudiants en humanitaire des anciens des services secrets...
Je comprends très bien votre question. Ma réponse sera d'abord, tout est possible. Oui, pourquoi pas un ancien 3A qui travaillerait demain au sein de la DGSE. C'est vrai qu'ils sont présents aujourd'hui, les anciens, dans 101 pays du monde. Alors, on peut comprendre qu'ils intéressent aussi les services de la DGSE. On peut parfaitement le comprendre. Mais il y a aussi des légendes. Et puis les politiques des pays étrangers, les pouvoirs étrangers vont aussi se servir des humanitaires pour exprès négocier avec les pays. Mais il y a aussi des légendes autour de tout cela.
Oui, il y a des légendes, mais ceci dit, c'est vrai qu'on se retrouve là, la proximité entre la DGSE, les anciens de la DGSE et les futurs humanitaires est construite dès l'école. Donc on se dit, c'est peut-être une légende, mais il y a un point d'appui à cette légende, quoi.
Oui, on rentre dans un domaine, j'allais dire, confidentiel. Que vont faire ces jeunes? Est-ce qu'ils vont être appelés par certains services? Je dirais que là, ça me met difficile d'y répondre.
Donc ça veut dire qu'ils le sont. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de...
Il peut y en avoir.
Mais est-ce que vous, consciemment, en instaurant ce stage à Galice Sécurité, vous tissez, vous construisez consciemment un pont entre éventuellement
les services secrets français et futurs crôles humanitaires.
Ah non, pas du tout. Moi, je suis... Alors après, qui est... Que ces situations-là puissent se produire, pourquoi pas. Mais moi, mon problème, c'est de préparer des jeunes pour vendre la France à l'étranger.
En garde ! Ah ! Debout ! Roulez en avant ! Debout !
Humanitaire... guerre humanitaire, souvenez-vous, le Kosovo, c'était la guerre humanitaire, militaire, on y est. Voilà des thèmes que Ronnie Broman connaît bien. Ronnie Broman est l'ancien président de Médecins Sans Frontières, comme vous le savez, Médecins Sans Frontières qui a reçu un prix Nobel. Et Ronnie Broman n'a pas cessé, évidemment, de réfléchir et d'écrire et de parler sur ce sujet qui lui tient évidemment à cœur, ce sera l'essentiel de sa vie, faisant la différence entre un certain genre d'humanitaire et un autre. Ronnie Broman.
Alors, je discute avec le président de l'école, là, qui est un ancien parachutiste, qui a fait une carrière dans l'armée. Cette école, c'est à la fois une école de commerce international et de développement humanitaire, les deux en même temps. Et je lui demande, mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion, là, à faire encadrer des étudiants en humanitaire par des anciens de la DGSE, ça veut dire par les services secrets. Est-ce que finalement, il va pas y avoir une filière de recrutement pour la DGSE avec ces humanitaires? Et il me répond, oui, c'est possible. On peut pas trop s'étonner qu'ensuite, quand ils se retrouvent sur le terrain, il y ait des groupes qui les accusent d'être des tops pour les services secrets, quoi.
Ah non, si on mélange effectivement DGSE, commando d'élite et humanitaire, il ne faut pas s'étonner ensuite que la confusion la plus extrême règne. Au passage, on peut se demander pourquoi une école de commerce international a une section humanitaire et développement. Franchement, après 32 ans passés dans l'aide humanitaire, je vois toujours pas bien le rapport entre les deux.
Mais c'est parce que les ONG sont des entreprises comme les autres.
En fait, je faisais un peu la nouille en disant ça. Je me doute bien que c'est de cela qu'il s'agit. C'est pas un constat de fait. C'est une analyse idéologique. C'est une posture idéologique de considérer qu'une ONG est une entreprise comme une autre. Ouvrir sa base de recrutement, faire miroiter des carrières professionnelles très différentes et marquées par un certain prestige, eh bien, c'est aussi une forme de marketing.
Est-ce que, avant de partir en mission, il vous avait arrivé de rencontrer des gens des services secrets de la DGSE?
Jamais. J'ai forcément, à un moment ou à un autre, croisé quelqu'un de la DGSE. Mais jamais cette éventuelle personne ne s'est présentée à moi sous l'étiquette DGSE. Donc je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelques années, Pierre Marion a publiquement déclaré qu'il avait utilisé les organisations humanitaires pour envoyer des agents en Pologne, et en l'occurrence, l'ex-Yougoslavie.
Il y a le journalisme embedded qui circule avec les troupes. J'ai l'impression qu'il y a un humanitaire ou un humanitarisme embedded de la même manière.
Ah mais oui, là encore, le parallèle est tout à fait justifié. En Afghanistan, une bonne partie de l'aide internationale est embedded. Il n'y a aucun doute là-dessus. Des organisations qui se veulent humanitaires, ou d'aide au développement, ou de solidarité, peu importe, s'attelle au même but que ceux de l'ISAF et de l'OTAN, c'est-à-dire le state building, comme on dit, le nation building, le confidence building, le peace building. Enfin, il y a tout un lexique. Mais donc, cette guerre pour les droits de l'homme, dont je rappelle quand même qu'elle nous est régulièrement présentée comme une sorte de mouvement d'émancipation, d'extraction d'une population entière d'obscurité moyenâgeuse dans laquelle elle est plongée. Il s'agit de dévoiler les femmes, d'établir l'égalité des genres, de développer l'éducation, enfin des tas de choses qui semblent marquées au coin du bon sens démocratique, mais qui relèvent exactement de ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire l'impérialisme libéral. Les ONG qui sont embedded dans ce projet, elles sont forcément perçues comme des suppôts d'un gouvernement installé par la force par l'étranger, et donc elles deviennent des cibles.
Moi je connais pas, excusez-moi, mais je connais très peu l'histoire de l'humanitaire. De où on part et comment on en arrive à cette confusion entre commerce international et ONG, c'est la même chose,
de toute façon, armée, militaire et humanitaire collaborent et ils ont besoin l'un de l'autre dans les deux sens.
Après tout, au XIXe siècle, période de naissance de l'humanitaire, on est aussi en pleine période d'expansion impériale, coloniale, et les liens entre les deux, y compris d'ailleurs parmi les fondateurs de la Croix-Rouge internationale, sont très étroits. Le premier président de la Croix-Rouge, qui était son grand fondateur, Gustave Moynier, était un ardent colonialiste, se reconnaissant dans à la fois le devoir de civilisation et en même temps la supériorité raciale.
La compassion est inconnue des tribus sauvages qui pratiquent le cannibalisme. Leur langue même, dit-on, n'a pas de mots pour en rendre la pensée, tant celle-ci leur est étrangère. Les peuples sauvages font la guerre à outrance et cèdent sans arrière-pensée à leurs instincts brutaux, tandis que les nations civilisées, cherchant à l'humaniser, confessent par là même que tout ce qui s'y passe n'est pas licite. La race blanche doit dédommager la race noire et la faire bénéficier des moyens dont dispose la civilisation moderne pour améliorer son sort. Gustave Moynier, premier président de la Croix-Rouge.
Soyez donc généreux pour les malheureux. Donnez un petit billet pour les affamés. Offrez donc un cadeau à un vieux clodo. Invitez un troufion pour le réveillon. Donnez vos vieux vêtements à une grand-maman. Jouets cassés aux petits délaissés. Pensez donc pour les fêtes à faire un petit geste. La concierge, les boueurs et puis les bonnes sœurs. Le gala de bienfaisance sur le bateau de plaisance. Le bal des années folles pour les boat people. Ma chère, je vous invite samedi en 8. On bridgera un peu pour les malheureux. La faim, vous le savez, est une fatalité. Sans fâcher le destin, donnez droit à voir rien. Nous enverrons grâce à vous du Rio Pérou un bateau de bananes ira au Vietnam. Nous remplirons un avion de bœuf mironton. On lâchera la cargaison au-dessus du Gabon. Et tous les traînes misères des deux hémisphères nous diront grand merci, messieurs les nantis. L'essentiel dans la vie, vous l'avez compris, c'est d'être du bon côté de la charité.
Y'a papa, t'es au pas de course.
Donc là, c'est la séquence déplacement sous les feux.
Donc on imagine, on est dans un pays en pleine insurrection. On vous demande d'aller rejoindre votre point de regroupement. Seulement, entre la zone où vous stationnez et la zone où vous serez en sécurité, il y a peut-être une certaine distance à faire. Où là, effectivement, les gens font la guerre, se tirent dessus.
Voilà, voilà la situation dans laquelle vous êtes supposé être. Vous n'êtes pas, puisqu'on est dans la forêt de Compiègne, au cours de ce stage, cette formation. Donc, ce sont des étudiants de l'école 3A de Lyon qui suivent ce stage, cette formation, cet aguerrissement dispensé par la société Galice.
Tu vois quelque chose ou pas, Vali? Tu peux te rapprocher ou pas en longeant la haie?
Ouais.
Allongé dans l'herbe. Pour ton service, Daniel.
Bon petit soldat, des gens ravissement.
Avec vue sur le derrière.
Une bonne petite soldat humanitaire.
Rampant le long d'un lion.
C'est un peu Koh-Lanta à Compiègne.
C'est un peu Koh-Lanta à Compiègne, ouais, avec.
Et toi, tu veux faire l'humanitaire ou du commerce?
J'aimerais bien travailler un petit peu en ONG, en siège d'ONG pendant quelques années. Pas faire toute ma vie dans l'humanitaire, mais. Enfin, travailler avec une entreprise qui a des valeurs, enfin, de vraies valeurs, quoi. Pas des taux.
marche parmi les bandits.
Il y a que moi qui suis fait shooter.
Non, moi aussi, je crois. En tout cas, on a eu 3 coups pour 6, c'est bien, quoi.
Et on a sauvé le journaliste, c'est pas beau, ça.
Et donc, t'as déjà fait des stages
ouais.
Pour reprendre notre conversation qu'on avait sous les taillis, en rampant.
Mon premier stage, j'avais fait au Pérou, dans la forêt amazonienne, donc 3 mois. Au Pérou, en fait, c'est une réserve naturelle qui se désactive. Donc, du coup, elle doit rendre des comptes à l'État. C'était tout ce qui était récupérer les animaux au marché noir ou à des familles péruviennes. Donc on les récupérait et là on essayait un peu de les... Par exemple on avait des perroquets et par exemple en captivité on leur coupe des tendons. Donc en fait ça repousse petit à petit mais il faut les mettre sur un bâton et secouer un petit peu comme ça les oiseaux petit à petit font leur... apprendre à voler, enfin retrouver le fait de voler.
Donc là t'as secoué des bâtons avec des perroquets au bout pendant 3 mois.
Un petit peu, il y avait autre chose aussi. Hein.
Je crache sur un moustique qui était sur ma main. Il y en a des énormes. Enfin, pour moi, c'est énorme. Moi qui ne fréquente pas la forêt équatoriale, pour moi, c'était un énorme moustique.
Un petit cousin, quoi.
Et est-ce que dans un de tes stages, tu as eu à ramper dans des sous-bois en espérant ne pas être capturé par l'ennemi?
Bien non. Non. Mais rien d'effrayant, quoi.
Au Cameroun, pareil. Pas de Kalachnikov, pas de MI-16. MI-16.
Non, au Cameroun, par contre, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en 2008, de janvier à mars, il y a des soulèvements politiques un peu. Donc il y a tous les Américains qui sont fait rapatrier aux États-Unis. Et il y a eu pas mal de morts. À Douala, il y a eu des morts. À Yaoundé, personne dans la rue. Il y avait les militaires qui étaient là, qui faisaient l'ordre. Et nous, on est restés une semaine cloîtrés. C'est amusant parce qu'en plus, il y avait un peu la saison des pluies qui arrivait. Donc l'air était lourd et les gens étaient énervés parce que Paul Biya avait traité les opposants d'apprentis sorciers. Ça a été...
L'orage.
Ah ouais, non, mais alors, tout le monde était là, oui, non, mais il va voir ce que c'est, les apprentis sorciers. Et c'est le dimanche, et en fait, le dimanche soir, il y a une espèce de gros orage. Et toute la pression qu'il y avait dans l'air, aussi bien, tout est redescendu, c'était amusant. Finalement, ça s'est calmé, quoi, je veux dire. Les militaires ont remis l'ordre, et puis... Mais il y a eu pas mal de morts. Hein. Je me suis piqué par un moustique. Il y a le briefing du coach.
Je sais pas.
Si.
On va aller là-bas.
Et quand t'es en Amérique du Sud ou en Afrique, t'es accueilli par les populations comme quelqu'un qui leur veut du bien ou...
Non, par exemple, quand on était au Cameroun, avec le scandale de l'arche de Zoé, tu sais, il était là, quand il y avait les gamins, il était là, tiens, prenez notre enfant, tu vois. Et ils en ont, le scandale des ONG en Afrique, voilà, quoi, ils en ont marre des fois, enfin, ils en ont marre de tous ces blancs qui débarquent et qui font, on va vous aider, on va vous sauver, avec les ONG bidons. Et
donc, tu te dis pas, quel est mon rôle en Afrique ou en Amérique du Sud?
Je te jure que je suis un peu perdue en fait. On s'est tous un peu défait nos illusions avec nos stages et.
Parce que tu vois, moi, c'est un symbole, mais le fait qu'on soit entouré de militaires, qu'on nous fasse ramper, qu'on porte un treillis, je me dis merde, ça veut dire quoi? Que quand on risque d'être perçu comme un adversaire quand on vient sur cette terre. Tu vois un peu ce que je veux dire?
On n'est pas toujours le bienvenu quand on est en Afrique, même si on est en ONG, quoi. Les mecs, des fois, ils veulent pas nous voir, quoi.
On garde!
Vous, Ronny Broman, vous avez fait combien d'années sur le terrain humanitaire?
Sur le terrain, en tout, j'ai dû passer 7 ans.
Et vous êtes allé dans quel pays au cours de ces 7 années?
Oh là là. Enfin, l'Afghanistan, le Salvador, l'Érythrée, le Tchad, l'Angola, le Vietnam, le Cambodge, le Mozambique, la Somalie.
Au cours de ces 7 années, dans tous ces pays-là, est-ce que vous avez eu à décharger une Kalachnikov?
Ah non, je n'ai jamais eu à décharger la moindre arme que ce soit. Je n'ai jamais manipulé une arme de ma vie, à vrai dire. Donc c'est plus simple de le dire comme ça.
Vous avez eu à engorger une poule, vous?
Non, j'ai jamais eu à égorger de poule, non. Non, j'ai appris simplement à faire un peu de cheval, et quand les fois où je devais me rendre en Afghanistan ou au Salvador ou dans des régions où il fallait beaucoup marcher, je me suis un peu préparé physiquement, mais enfin avec des baskets et un short, voilà les seules armes dont je disposais.
À mon avis, hein, si vous avez jamais égorgé de poule et jamais déchargé une Kalachnikov, il est temps de subir un stage d'aguerrissement mental quand même.
Oui, ou alors peut-être de prendre ma retraite. Après tout, je m'approche de l'âge canonique. En effet, oui, je suis un peu dépassé là. Mais bon, des humanitaires qui suivent un entraînement de ce type, moi personnellement, je n'ai encore jamais rencontré. ils le font aussi parce que c'est marrant, parce que fréquenter des gens de la DGSE et du GIGN, c'est exotique, c'est intriguant, c'est des gens impressionnants quand même. Et donc, bon, il y a un côté à la fois convivial, intriguant, piquant dans tout ça, qui, quand on a, en plus, quand on a quoi, 21, 22 ans, ne fait que rajouter au plaisir. Et puis
c'est comme si il y a une mythologie chez les journalistes, c'est la mythologie du grand reporter qui est toujours sur des terrains de guerre, qui a un risque de se prendre un obus, enfin vous voyez, et alors que ça représente une toute petite minorité des journalistes. La plupart, 99%, ils font un travail de bureaucrate à retraiter des dépêches AFP. Et je me demande si de la même manière il n'y a pas une mythologie de l'humanitaire, à savoir des humanitaires qui risqueraient en permanence leur peau, confrontés à des prises d'otages dans des endroits où il y aurait des tirs tendus, devraient être fouillés en permanence à des checkpoints, alors que peut-être, je sais pas, c'est un métier que je connais pas, mais 95% du temps, ou pour 95% des gens, enfin c'est un travail tranquille entre guillemets, mais enfin où on risque pas sa peau tous les jours, quoi.
Ah oui, mais je trouve que votre parallèle se tient tout à fait. Heureusement que la plupart des actions humanitaires, y compris lorsqu'elles se déroulent sur des terrains conflictuels, même dans ces conditions-là, la plupart des organisations humanitaires œuvrent tranquillement, sont acceptées par les gens auprès desquels ils travaillent. Ils partent avec des idées totalement farfelues, voire paranoïaques, sur la façon dont on se met en sécurité dans une situation tendue.
Là, il y a du matériel, il y a de la nourriture, vous partagez ça. Vous prendrez les poulets avec vous, vous les partagez aussi. Vous pouvez débrouiller de manière à ce que certains les portent.
Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un croquis d'itinéraire. Donc on va quitter l'ambassade ici, parce qu'il y a des rebelles qui arrivent. Donc on va se diriger là-bas, sur une zone refuge, où on va se planquer et on va pouvoir être tranquille.
Il a beau dire, le François Ruffin, il aimerait lui aussi être un grand reporter, un de ces baroudeurs, ces gars qui ont rampé sous les barbelés, qui ont vu la mort en face, qui ont sauvé des enfants, qui ont fait toutes ces choses extraordinaires sous les... Eh ben, pour l'instant, il s'est limité, vous le connaissez un peu, François Ruffin, à des reportages un petit peu à droite, à gauche, c'est vrai, plus à gauche qu'à droite, mais enfin, ça se limite à un espace très limité. Et ce reportage lui a donné l'occasion de se mesurer, sa personnalité, de s'éprouver, de s'aguerrir.
Là, il y a un feu qui brûle dans la nuit. Donc ça doit être le signe qu'on approche de notre bivouac.
Elle est malade, ma poule?
Non, mais c'est qu'elle avait, elle avait du sang dans la tête tout le long. Donc là, ça redescend, ça doit le faire bizarre.
Et on prend du feu ici, qu'est-ce qu'on fait?
Dans la nuit, dans la forêt, là, il y a des bouts de cigarettes qui rougeoient.
Quelqu'un peut éclairer, s'il vous plaît?
Alors, les poules, il y a différentes méthodes. La plus sauvage, je dirais, si vous n'avez pas d'outils tranchants, comme une machette ou une hachette, c'est assez violent, mais si vous n'avez pas le choix, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça marche pour tous les gibiers à plumes. Hein. Faut pas y aller de main morte. C'est tenir la poule correctement par les ailes, très fermement, lui prendre la tête, vriller d'un côté et de l'autre, tourner, tirer pour lui arracher la tête. Autre méthode qui peut paraître aussi un peu barbare mais beaucoup plus rapide, c'est le billot. Vous posez la tête de votre poule sur le billot, vous la calmez pour qu'elle tire la tête vers l'avant gentiment. Si elle veut pas, une ficelle autour du cou pour tendre le cou, vous tranchez la tête direct. Ensuite, des méthodes plus paysannes, je dirais, par la bouche. Soit vous coupez la langue, soit vous coupez le palais. Donc dans la foulée, on prend la tête, on prend les ailes et on l'attend au-dessus d'une gamelle pour récupérer le sang, chose que vous allez faire ce soir. Alors après, pour plumer, l'idéal c'est d'avoir de l'eau bouillante. Les plumes partent beaucoup plus facilement. Là, vous allez plumer sans eau bouillante. Vous ouvrez au niveau du cloaque, Le cloaque de la poule, c'est l'organe génital. Vous ouvrez le ventre, vous sortez tout. Ceux qui connaissent gésier, cœur et foie, si vous les récupérez, vous récupérez. Tout le reste est évacué. Et après, il n'y a plus qu'à mettre à cure au-dessus des braises. D'accord ?
Donc, je suis l'atelier poule. Je vais voir ce que ça donne l'humanitaire à la machette, quoi.
Fais gaffe à ta mère,
les gars.
Tu le fais là ou quoi ?
Pas sûr. Hein.
Bah, donne.
Vas-y, laisse. Montre.
C'est juste en lavant tes mains.
Je sais pas du tout.
Ouais, la poule est allongée le long d'une souche.
Putain,
une chaud. Machette.
J'espère que ça gicle pas, j'en sais.
Oh, mon Dieu !
Vas-y, vas-y.
Sac !
Sac ! Bah ouais, mais tu crois que j'ai fait quoi ?
Ouais, ok.
Non, mais...
Oh, merde. Non, oh, mais... mon Dieu.
Putain, c'est pris deux coups de machette dans la tête, mais elle bouge encore, largement. Là, elle bouge encore, elle est pas morte du tout. La machette a l'air d'être bien aiguisée. C'est comme la guillotine. Attention, quand elle marche pas du premier coup.
Et voilà.
Ça y est, la tête est pas décrochée.
Non, mais là, c'est dégueulasse.
Enlève la tête. Oh putain, j'ai besoin de faire de la sauce réunion noire.
Tu veux pas la couper la tête?
Ouais.
Bah ouais, mais là, faut me la remettre bien.
Ok.
Ah, mais le problème, c'est ça gicle.
Oui, mais c'est pas grave, allez, putain, mais fais-le tout de suite.
Non, mais enlève, après on va. Oh putain!
Putain! Mon
Dieu!
Ah, vite!
Oh là là là! Oh le massacre!
Je suis désolée, ma pauvre petite
poule! Oh putain! Elle se bouge encore!
Putain, moi ça m'a éclaboussé au visage!
Oh putain, on s'est pris à trois coups de machette pour lui décaître!
Vite, il nous faudrait un couteau là!
Sous la poule, je continue de gigoter parce que bon, les nerfs sont encore tendus. On m'a placé une assiette. Une assiette bleue qui recueille le sang de la poule.
Bon, je vais chercher la deuxième poulette.
On va se faire attaquer par les SPA.
Ouais, c'est clair.
Je sais pas ce que vous voulez changer.
L'humanitaire, moi, je voyais pas ça comme ça, tu vois.
Je sais pas si vous voulez changer la méthode pour tuer la poule parce que c'était pas très concluant non plus.
Vous voulez pas, mais la prendre comme il avait dit sur la gorge et le.
Bah ouais, juste une assiette.
Plein de pistes de poule, génial. Quelqu'un veut du poulet?
Ouais, si vous voulez du poulet, je voulais vous servir.
J'ai goûté le poulet quand même.
Vas-y, goûte. Hein.
Il y a un peu du feu, quoi.
Alors, verdict,
c'est véridiquement du poulet.
On sort du camp, on a fini par croquer une bouchée de poulet. On marche vers les bungalows sous la lune qui passe à travers les branches des arbres.
Ah, maintenant, Daniel, je comprends ce que c'est qu'être un très grand reporter à l'international. Hein. Ces grandes journalistes là qui savent plumer les poulets. Je veux pas te décevoir, Daniel, mais je pense pas que je serais à la hauteur de devenir comme toi un très grand reporter capable de ramper dans les orties pour aller en Palestine pour survivre en Afghanistan.
Donc moi, je vais continuer à aller à Morlaix, à Longwy, à Moucron, à la frontière belge. Poursuivre des soirées au Romilly. Désolé. Puis j'écouterai de là-bas si j'y suis pour avoir des nouvelles des zones à risque. Enfin, je pourrais quand même te donner quelques conseils en aguerrissement mental.
Merci à tous, merci à Olivia Gémin, aux formateurs du Galice, aux élèves de l'école 3A, ainsi que son président Jacques Gallois. Merci à Pascal et Ronnie Broman. Le titre du bouquin, du dernier bouquin de Ronnie Broman, c'est Humanitaire, diplomatie et droits de l'homme aux éditions du Cygne. C'est sorti en octobre 2009. Et puis le papier qu'il a donné au diplôme au monde diplomatique de septembre 2005, Mission civilisatrice, ingérence humanitaire, est en ligne sur labas.org. C'était un reportage de François Ruffin. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Labas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, et donc également sur labas.org, labas.org. À la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos et Gaël Braouzek. Koy Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Le Bot et Céline Rouzet. Attend vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis, dont vous connaissez le numéro, 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Les arts de la table.
Oh, quelle soirée, hein. Ouais. Elle sait recevoir, hein, chérie. Ouais. Ses coussins, dernier cri, ouais. Ses brocolis au miel. T'as aimé, toi, ouais. Sa petite jupe noire. Ouais. Tout est tellement in chez Jacqueline.
Ouais, t'as vu sa vaisselle?
Ah, c'est sûr, sa vaisselle, ça calme, hein, forcément.
Voilà.
Les arts de la table.
Comme la mode, c'est bien quand ça change.
France Inter et le Théâtre de la Commune d'Aubervilliers présentent jusqu'au 29 mai Gary Jouvet 45-51.
Je peux vous dire que maintenant, ça y est. Je ne sais si vous jouerez la pièce, mais je sais maintenant que mon nom demeurera. Romain Gary.
Mise en scène par Gabriel Garand en collaboration avec Myriam Lotamer. À retrouver dans les émissions de France Inter.
Voilà, il va être 16h sur France Inter. On se retrouve demain pour Là-bas si j'y suis à 15h. Je vous laisse pour les infos avec Clotilde Dumais. Salut!
En Grèce, la police est en état d'alerte générale pour faire face au déchaînement de violence qu'a vécu la capitale grecque en marge des manifestations de protestation contre le plan d'austérité du gouvernement. 3 personnes sont mortes dans l'incendie d'une banque provoquée par des cocktails Molotov. Après l'annonce de ce drame, un calme précaire est revenu dans le centre de la capitale grecque où les traces des affrontements jonchent le sol. Aux États-Unis, Feza Shahzad a admis avoir garé un 4x4 piégé dans le quartier central de New York et avoir reçu une formation à la confection d'explosifs dans un bastion des talibans d'Al-Qaïda au Pakistan. C'est ce que rapportent les procureurs américains. Ce qui surprend les enquêteurs, c'est que cet analyste financier vivant et travaillant dans le Connecticut n'a pas le profil des recrues habituelles des talibans. Il est le fils, par exemple, d'un général de division de l'armée de l'air du Pakistan. Dans le golfe du Mexique, BP a réussi à colmater l'une des 3 fuites de la plateforme qui a coulé au large de la Louisiane. Le colmatage des autres fuites se poursuit. Au moins 715 000 litres de pétrole brut ont été déversés chaque jour dans le golfe du Mexique depuis l'explosion le 20 avril de cette plateforme pétrolière. Qui sera le prochain Premier ministre de la Grande-Bretagne? Le sortant Gordon Brown, le conservateur David Cameron ou Why Not, le libéral démocrate Nick Clegg? 44 millions de Britanniques sont appelés aux urnes demain. Ces élections législatives très incertaines sont les plus disputées depuis bien longtemps. Décryptage ce soir entre 18h et 19h dans Et pourtant elle tourne. Jean-Marc Four est en direct de Londres ce soir. Et à cette occasion, d'ailleurs, vous pouvez consulter dès maintenant le dossier de la rédaction sur ces élections britanniques sur franceinter.com. Les otages français en Afghanistan sont fréquemment déplacés. Le ministre français des Affaires étrangères a donné des nouvelles des 2 journalistes enlevés il y a 4 mois. Il était interrogé lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Bernard Kouchner a assuré que rien n'était négligé pour obtenir leur libération. Dominique Strauss-Kahn, candidat socialiste préféré des Français pour 2012. C'est un sondage BVA pour le Nouvel Observateur qui le dit. Le directeur général du Fonds monétaire international se situe 3 points devant Martine Aubry. PSA va rembourser 1 milliard d'euros du prêt de l'État dès cette année. Le groupe automobile annonce ce remboursement par anticipation. PSA, comme Renault, a bénéficié l'an dernier de prêts à taux préférentiel de l'État de 3 milliards d'euros pour faire face à la crise financière. En contrepartie, PSA et Renault se sont engagés à ne pas fermer d'usines en France. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, a annoncé ce midi la tenue d'assises de la conchyliculture au cours du mois de juin. Une annonce après la manifestation des ostréiculteurs bretons à Paris. Ils étaient venus alerter les autorités sur le problème de surmortalité qui touche les naissains d'huîtres. Les bateliers en colère. Depuis une semaine, ils bloquent les bassins de la Seine et de la Moselle. Ils réclament une revalorisation de leurs prestations. La Seine est bloquée à Paris, au pont d'Austerlitz, à Champigny-sur-Seine. La Seine-et-Loise à Conflans-Sainte-Honorine. Bloquée aussi la Sensée à Douai ou la
Lidl à Lille. Et pendant ce temps-là, des réunions ont lieu au ministère des Transports à Paris. Les bateliers demandent à faire respecter la loi. Ils estiment travailler à perte. Or, explique-t-il, le travail à perte est interdit par l'article 209 du Code fluvial. Et plus de 15 tonnes de cigarettes ont été saisies fin avril par les douaniers de Calais. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la direction régionale des douanes. Des cigarettes dissimulées dans des produits alimentaires surgelés. Cette marchandise était destinée au Royaume-Uni.
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion, ce soir à 19h20. Thomas Legrand.
Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, sera notre invité ce mercredi pour parler de la crise grecque, des réponses européennes, du projet des socialistes pour 2012 et pour souffler les trois bougies du président Sarkozy. Il aura comme contradicteur Dominique Payet, le porte-parole de l'UMP. Rendez-vous donc avec Jean-Marc Ayrault pour les questions du mercredi.
Une émission présentée par Thomas Legrand avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20. France Inter présente le Festival de Cannes du 12 au 23 mai, en direct du Majestic Barrière. Mercredi 12 et lundi 17, le 6h30, 10h de Nicolas Demorand. Les vendredis 14 et 21, on aura tout vu avec Christine Masson et Laurent Delmas à 17h. Le 63e Festival de Cannes, c'est sur la Croisette au Palais des Festivals avec France Inter. Renseignements sur franceinter.com. France Inter.
Différence.
16h04 sur France Inter, l'heure de retrouver le carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Clotilde. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Tout à l'heure, vers 16h30, je recevrai Nora Gubisch, mezzo-soprano, Alain Altinoglu, qui est pianiste et chef d'orchestre, et il va sortir dans quelques jours un disque consacré aux rares et magnifiques mélodies d'Henri Duparc. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup déchiré. Il était très difficile avec lui-même. Et comme nous sommes le jour des enfants, donc il se repose un petit peu de temps en temps, je vais vous parler d'une initiative très passionnante à la cathédrale de Laon, dans l'Aisne. Donc dimanche, à partir de 17h, un très très beau concert, ça s'appelle la Symphonie des siècles, et ce qui est original, c'est qu'il y a l'Orchestre des siècles, qui est un orchestre professionnel, très réputé, avec François-Xavier Roth, qui est le chef, et puis des jeunes, c'est-à-dire vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes, des élèves, des étudiants, et ils ont travaillé avec leurs aînés, un très beau programme symphonique, Rachmaninoff, deuxième concerto pour piano, avec Marie-Joseph Jude, absolument superbe à voir, là je regarde le petit dépliant, et puis à entendre aussi, bien sûr, il y aura Tchaïkovski, des extraits de Casse-Noisette, et puis trois danses slaves de Dvorak. Donc ça, c'est le 9 mai à Laon, et à Soissons, ce sera le 22, le samedi 22, à 20h30. C'est vraiment un moment formidable, et en plus, c'est entrée gratuite pour les deux concerts. Il faut appeler simplement l'Office du Tourisme du Pays de Laon, à Laon, et puis le MAI, scène culturelle à Soissons. Voilà. Et on mettra ces numéros sur le site, si vous voulez bien. On va écouter le résultat tout de suite, avec la première partie de l'ouverture de la première suite de l'Arlésienne de Georges Bizet.